VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. Le gouvernement de la RDC va-t-il isoler le pays à l'approche de la fin du mandat du président Kabila ? Les autorités de Kinshasa ont en tout cas demandé un filtrage ou une coupure des réseaux sociaux en République démocratique du Congo à partir de dimanche, moins de 48 heures avant la fin du mandat présidentiel, rapportent les quatre fournisseurs d'accès à Internet. Selon ces sources, les opérateurs du secteur n'ont pas encore reçu d'injonction formelle et ont demandé que l'ordre leur soit donné par une note écrite détaillant les souhaits des autorités. Les travaux du deuxième dialogue donc dans le pays se poursuivent en commission, bien que les travaux se déroulent à huis clos. On sait maintenant que les discussions entre la majorité présidentielle en RDC et l'opposition achoppent sur la date des élections et le retour au pays de Moïse Katumbi. Martin Fayoulou du Rassemblement lève un coin de voile sur les discussions.
Nous avons écouté la CENI. L'après-midi, nous allons revenir pour lever les options politiques. Et à partir de ces options, nous allons décider, en tout cas nous au Rassemblement, nous avons dit que les élections doivent avoir lieu en 2017. Ça, c'est un. Le deux, il faut coupler l'élection présidentielle et les législatives nationales comme ce fut le cas en 2011. Trois, ces deux élections auront lieu pour nous les 10 septembre 2017.
Martin Fayoulou, propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa. Le Soudan du Sud, toujours dans l'œil du cyclone, après avoir brièvement entrevu la fin de la guerre civile déclenchée le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud a assisté ces derniers mois à l'implosion du processus de paix et au retour de violences à grande échelle qui font maintenant craindre une dérive génocidaire. Les tueries à caractère ethnique ont redoublé ces derniers mois, notamment dans la ville de Yéhi et ses environs en Équateur central, poussant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier en Ouganda voisin. La pression internationale a contraint le gouvernement sud-soudanais à accepter le déploiement à Juba d'une force de maintien de la paix additionnelle, forte de 4000 hommes sous mandat de l'ONU, mais les modalités de ce déploiement et son calendrier restent incertains.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Les autorités égyptiennes ont exécuté aujourd'hui un djihadiste condamné à mort pour le massacre de 25 policiers dans la péninsule du Sinaï en 2013. Adel Abara a été pendu dans une prison du Caire quelques jours après la confirmation de sa condamnation à la peine capitale. L'exécution d'Adel Abara intervient après la revendication mardi par le groupe État islamique de l'attentat à la bombe contre une église copte au Caire qui a fait 25 morts dimanche. Les ressortissants africains refoulés d'Algérie ont commencé à regagner leurs pays respectifs, passant d'abord par le Niger, notamment la ville d'Agadez. Sur place, notre correspondant Abdul Razak Idrissa a rencontré quelques-uns d'entre eux qui lui ont confié leur calvaire.
Chantal Mabiala, congolaise de 35 ans, et Kanga Kwasi Philippe, ivoirien de 46 ans, se souviennent encore des conditions horribles dans lesquelles ils ont été traités avant leur expulsion.
Là où je suis fouti.
Ah, ça c'était pénible. Où je suis là, je n'ai même pas un rond.
À la sortie ouest de la ville d'Agadez, la plupart des près de 900 migrants rapatriés d'Algérie sont encore sous le choc. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils se sentent davantage humiliés que lorsqu'ils étaient traqués en terre algérienne pour être rapatriés. Kanga Mana et Edwige sont de nationalité camerounaise.
On n'a même pas prévu de nattes pour nous. Nous, on est plus que des criminels. On est gardés par la police.
Moi, je suis enceinte. Quel suivi j'ai ici, je ne sais pas.
Depuis le 12 décembre, ces expulsés sont acheminés à Niamey, d'où des véhicules les prennent chacun pour son pays d'origine. Abdelrazak Idrissa à Agadez pour VOA Afrique.
Maintenant, le dossier de ce journal, le Burkina Faso et la Tunisie ont été choisis, de même que le Sri Lanka, pour bénéficier du nouveau partenariat du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Il s'agit de subventions quinquennales dont le but est de promouvoir le développement économique et de réduire la pauvreté. Quels ont été les critères qui ont conduit au choix de ces deux pays africains? Bagassi Koura a joint ici à Washington. Maïté Osteter, elle est chargée d'analyse au Millennium Challenge Corporation.
D'abord, la liberté économique. Après ça, l'investissement dans le capital humain et aussi la bonne gouvernance.
Concernant le Burkina Faso, qu'est-ce qui vous a le plus séduit?
Même si le Burkina Faso a vraiment traversé une période assez difficile. Ils ont vraiment bien renforcé leur processus démocratique, spécifiquement avec les élections bien réussies en 2015. Et on était vraiment contents de voir une tendance positive à travers le temps pour le Burkina. Ils ont bien réussi la mise en œuvre du premier compact, qui est un critère. Ils ont aussi montré des tendances très positives sur la feuille de route à notre critère. Et le Burkina Faso s'engage vraiment fermement en faveur des réformes sectorielles et nous sommes très encouragés par ceci.
Et en ce qui concerne la Tunisie ?
Donc la Tunisie, effectivement, cette année, nous avons vu qu'ils ont vraiment, déjà sur la feuille de route, ils avaient une très bonne performance, spécifiquement sur les droits civils et les droits politiques, et aussi le combat de la corruption. Le MCC, le conseil d'administration, s'est dit que vraiment, il y avait cette très bonne performance d'un côté, mais aussi la Tunisie nous offrait une opportunité d'engagement pour vraiment travailler étroitement avec la Tunisie pour faire face aux nombreux défis en tant que la pauvreté et l'inégalité dans le pays.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant que ces pays ont été choisis ?
L'équipe MCC qui gère les programmes Contact va aller sur le terrain, engager avec leurs homologues au sein des ministères, du gouvernement, pour commencer le lancement du processus du développement du Contact. Ceci entame aussi des études économiques qui regarderont vraiment les contraintes à la croissance économique et à la pauvreté dans ces deux pays. Tout cela va commencer un processus qui va durer plusieurs années où on va développer un investissement qui devra après être soumis au conseil d'administration pour une validation finale avant de commencer.
Le Burkina Faso et la Tunisie sont deux pays qui sont aussi confrontés à des problèmes de sécurité, notamment le terrorisme. Est-ce que c'est un secteur qui est aussi pris en compte ?
Nous nous rendons bien compte de la situation sécuritaire dans ces pays et nous prenons ça en considération aussi, comme les autres acteurs du développement.
Maïté Ostetter, chargée d'analyse au Millennium Challenge Corporation, ici même à Washington. Les habitants d'une colonie israélienne en Cisjordanie occupée ont rejeté une offre du gouvernement de les reloger ailleurs. Ils risquent maintenant une évacuation forcée. La Cour suprême israélienne a en effet décidé qu'Amona, où vivent environ 300 personnes, devraient être détruites avant le 25 décembre parce qu'elle a été construite illégalement sur des terres privées palestiniennes. Et ici aux États-Unis, dans le scandale de l'eau empoisonnée à Flint, les populations pointent du doigt un seul coupable, le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, dont les décisions ont conduit au désastre. Nastasia Puteuil.
Rien qu'à entendre le nom du gouverneur, de nombreux visages se crispent à Flint. Pour les habitants, il est en partie responsable de la situation. Un journaliste de Michigan Radio a suivi la crise depuis les débuts. Steve Carmody explique pourquoi le gouverneur est accusé d'être la source du problème.
Snyder est de plus en plus isolé, car beaucoup de gens le montrent du doigt. Il a nommé l'administrateur d'urgence qui a pris la décision de faire le changement, et il a aussi nommé l'administrateur qui a continué à faire le changement malgré les problèmes.
Pour l'instant, 9 employés de l'État ont été accusés d'avoir caché l'ampleur du problème. Mais le procureur, dans ses poursuites, ira-t-il jusqu'au gouverneur lui-même ? Pour Steve Carmody, rien n'est encore certain.
Si vous regardez parmi les gens qui ont été inculpés, ça commence tout en bas de la hiérarchie et ça remonte vers le haut. Jusqu'où cela ira-t-il ? Nous ne le savons pas encore.
Les habitants de Flint accusent l'État du Michigan et le gouverneur de n'avoir pas réagi efficacement face à la crise. Des militants viennent de poursuivre en justice le Michigan pour le forcer à fournir des bouteilles d'eau dans toutes les maisons. Mais l'État a fait appel.
Quelques 4000 rebelles ainsi que leurs familles seront évacués d'Alep en Syrie. Les préparatifs pour cette opération majeure étaient en cours dans la matinée ce jeudi. La perte d'Alep va représenter un revers cuisant pour la rébellion qui avait conquis la partie orientale de la deuxième ville syrienne en 2012, mais se retrouve aujourd'hui confinée dans un réduit après une offensive foudroyante du régime lancée à la mi-novembre. Et puis la cité antique irakienne de Nimrod, vandalisée par le groupe État islamique, a subi des dommages considérables selon une mission d'évaluation de l'UNESCO qui préconise donc des mesures d'urgence pour sauvegarder ce qui reste du site. Le site archéologique de Nimrod est un joyau de l'Empire assyrien fondé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ le long du fleuve Tigré. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est avec Henri Francisque dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.